Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Il vous est sûrement arrivé de trouver dans vos boîtes aux lettres des tracts déposés par des groupements faussement religieux, des sectes ou d'autres personnes faisant des démarchages. Et quelquefois, dans ces tracts que vous trouvez, on vous annonce la fin du monde pour demain ou pour après-demain, mais enfin, c'est vraiment tout proche. Et aussi, on vous fait remarquer que vraiment la colère de Dieu risque de se déchaîner contre cette humanité impie qui est la nôtre aujourd'hui. C'est un peu le son de cloche qu'on avait à travers la lecture du livre de Jonas. Le livre de Jonas dans la Bible, c'est une fiction littéraire, c'est un roman. Le Seigneur se sert de tous les genres littéraires dans la Bible. Il y a des prières, il y a des récits plutôt historiques, il y a des livres prophétiques, il y a des commentaires de d'autres passages de la Bible à travers certains livres bibliques, etc. La Bible est une bibliothèque de 74 livres différents, écrits à des époques différentes, avec des genres littéraires différents. Et dedans, il y a aussi des romans. Et le livre de Jonas, c'est un roman, mais qui est aussi parole de Dieu pour nous, c'est-à-dire qui nous fait comprendre quelque chose. Et Dieu envoie Jonas auprès de Ninive pour demander que les habitants de Ninive se convertissent. Et la prédication de Jonas, mis à part la question de la baleine et de son séjour pendant 3 jours dans la baleine, la prédication de Jonas est une prédication où il dit encore 40 jours et Ninive sera détruite. Alors je ne sais pas si c'est très motivant comme façon de s'y prendre et comme prédication. C'est un peu la baguette, hein. Dieu va vous châtier si vous ne changez pas de vie, voilà. Et vous remarquerez que Jésus, lorsqu'il commence sa prédication, puisqu'on a entendu comme évangile dans Saint Marc au chapitre 1er, verset 14, donc le tout début de l'évangile de Marc, la première parole que Jésus prononce, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il est aussi question de conversion dans ce que dit Jésus, mais il nous dit qu'il faut nous convertir, c'est-à-dire croire en la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? À savoir que le règne de Dieu s'est approché. Pourquoi ? Parce que les temps sont accomplis, les temps ont mûri. La prédication de Jésus qui appelle à la conversion, tout comme Jonas appelait à la conversion, la prédication de Jésus est tout de même un petit peu différente. Alors qu'il semblait que Jonas manie plutôt la baguette et la carotte, ici Jésus nous fait comprendre que, en se situant dans une perspective historique, que les temps ont mûri, hein, comme on dit d'une moisson, que les blés sont mûrs, on peut faire la moisson. Jésus nous dit les temps ont mûri, c'est-à-dire ce que le développement du temps est parvenu à maturité, et maintenant le fruit qui va être porté, c'est lui, Jésus, le Fils de Dieu fait homme, c'est sa présence au milieu de nous qui est le règne de Dieu, c'est vraiment le fruit mûr du temps humain. Il a fallu beaucoup de temps. Vous savez, dans les cantiques de Noël, il est né de divin enfant, on chantait depuis plus de 4000 ans, etc., etc. Dieu prend son temps. Il n'est pas pressé, il est patient. Et ce qu'il accomplit mûrit à travers le temps. C'est pour ça qu'il faut toujours nous méfier de tout ce qui peut être bref et trop rapide. Ça ne porte pas la marque de Dieu. Dieu travaille dans le temps. Et même Jésus a voulu aussi être enfant dans le sein de Marie pendant 9 mois et passer 30 ans avant de commencer à prêcher. Il prend son temps. Le temps a sa valeur. Pour ça, d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait... Je trouve que le passage qu'on a entendu dans la seconde lecture de saint Paul aux Corinthiens est un petit peu délicat, parce qu'il dit que ceux qui font des achats le fassent comme s'ils ne possédaient rien, que ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui ont une femme comme s'ils n'avaient pas de femme. Les femmes apprécieront, n'est-ce pas? Je pense que c'est un petit peu délicat parce qu'il semble dire que le temps n'a pas de consistance. Or, c'est pas vrai. Et on sent bien là que dans ce passage de Paul aux Corinthiens vers l'an 56, on est environ 16 ans après la résurrection de Jésus, il a encore une sorte d'attente exacerbée du retour du Christ. Et il dit, de toute façon, c'est pas la peine de s'intéresser à votre profession, à votre famille, etc. Jésus va revenir bientôt, et donc le règne de Dieu va débouler. Préparez-vous au grand soir. Et puis, comme on dit, n'est-ce pas, saint Paul est obligé de mettre de l'eau dans son vin au fur et à mesure où le temps passait. Il s'est aperçu que peut-être, au fond, la venue glorieuse de Jésus serait plus loin qu'il ne le pensait. Et il a changé, comme on dit aussi, son fusil d'épaule pour avoir une prédication plus tempérée sur ces questions. Et donc, il a réfréné ce qu'il avait pu faire soulever comme attente exacerbée en disant « Non, non, mais Dieu patiente, enfin, voilà, ne pensez pas qu'on vous annonce la fin des temps pour tout de suite. » Au début de l'Église, l'attente de la fin des temps était effectivement très exacerbée. Et puis après ça, il faut être honnête aussi, on l'a tellement perdu de vue qu'on a fini par oublier. Et donc les sectes là-dessus, évidemment, font leur beurre avec tout ça, en nous resservant la chose de façon exacerbée. Mais on voit bien que il faut savoir se situer de façon équilibrée. Qu'est-ce que Jésus nous dit ? Jésus nous dit, l'important, c'est pas d'avoir peur de Dieu qui va venir nous châtier parce qu'on a dévié. L'important, c'est de croire en la bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu s'est fait homme, qu'il nous aime, qu'il nous partage sa vie et qu'il nous demande de vivre en fonction de sa parole. Le plus important, c'est de croire cela et d'essayer de vivre cela et de partager cela à d'autres. Le temps a mûri, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous, changez de vie, croyez à la bonne nouvelle. Voilà la première prédication de Jésus et ce qu'il nous demande encore aujourd'hui. De vérifier si notre foi en la bonne nouvelle de sa présence, c'est vraiment le moteur profond de notre vie de chaque jour. Mais ce moteur profond ne nous dispense pas de prendre au sérieux ce que nous avons à vivre. Notre profession, notre vie familiale, nos engagements, c'est à travers tout cela que la présence de Dieu est vécue, que la charité doit être vécue, que ce qui est marqué au-dessus sur la poutre « Aimez-vous les uns les autres » doit être vécu à travers tout cela. Et tout cela a son importance et sa consistance. Un travail bien fait, c'est véritablement la marque du royaume de Dieu tout proche. Une vie de famille épanouie, où on s'écoute les uns les autres et on se respecte, c'est vraiment la marque du règne de Dieu au milieu de nous, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que la prédication de Paul a besoin d'être corrigée, peut-être par la perspective du Concile Vatican II, qui nous a bien dit que, au cœur de ce monde, au fond, tous nous avons à agir pour redresser toutes choses et les mettre dans l'axe de la parole de Dieu, dans l'axe du royaume de Dieu, et que c'est là que Dieu nous attend, en particulier les laïcs, qui doivent vraiment, dans l'ordre temporel, dit le Concile Vatican II, eh bien, manifester la puissance du royaume de Dieu. Ça n'empêche que le Seigneur a besoin, à certains moments, que des gens donnent leur vie totalement pour le royaume, et on le voit avec les premiers apôtres qu'il appelle, Simon, André, Jacques et Jean. Il les met à part, à temps plein, si j'ose dire, et en leur demandant de consacrer leur vie, parce que vous savez, le petit refrain, oui, Pierre était marié, etc., les premiers apôtres étaient mariés, ce petit refrain est faux. Je vous signale, il est faux. On parle une fois de la belle-mère de Pierre dans les évangiles, et à partir de là, on a fait monter comme une mousse l'histoire factice du mariage des premiers apôtres, et c'est faux. En fait, on n'a aucune trace des enfants d'aucun des apôtres, aucune trace des épouses, et la belle-mère de Pierre, ça peut être la deuxième épouse de son père, dans le texte grec de l'évangile. Donc, voilà, Jésus a appelé des disciples à être consacrés à lui. Venez derrière moi, c'est-à-dire soyez mes disciples, venez derrière moi, et puis je vous ferai pêcheurs d'hommes, à être au service de l'évangélisation. Certains sont à temps plein pour cela, mais ce n'est pas la plupart, c'est certain. Et Jésus en a appelé 12, et Jésus continue d'appeler, mais en revanche, tous nous avons à être les témoins de Jésus au cœur de ce monde, là où nous sommes, dans nos familles, nos vies d'entreprise, de travail, nos engagements, partout, à travers les plus petits gestes, nous avons à vivre l'évangile de Jésus et à en témoigner. Et nous avons aussi à nous convertir sans cesse, à accepter que Dieu règne dans nos vies, que Jésus règne sur nous. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle.